Sur le fait que deux actualités se télescopent. Une préoccupante auquel une sœur a fait référence dans sa prière, ces revendications qui s'accompagnent malheureusement de temps de violence qui nous laissent en plein désarroi. Et je rêve que les enfants du Seigneur, qu'ils portent des gilets jaunes ou non, aient aussi un drapeau blanc à la main. Et qu'il rappelle que rien ne s'obtient par la violence, que la violence ne fait qu'appeler la violence. Et que cette attitude de paix puisse être un témoignage. L'autre actualité est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne, c'est celle de l'Avent. L'Avent, c'est cette période pendant laquelle nous célébrons la venue du Seigneur. Et nous ne pouvons pas célébrer cette venue, la première venue, sans nous rappeler qu'elle annonce la seconde. Et pour ce faire, je voudrais méditer avec vous un très beau texte. C'est le chant que Marie célèbre, le Magnificat, lorsque sa cousine qu'elle visite, Élisabeth, lui dit « Mais au moment où tu m'as salué, l'enfant que je porte a tressailli en moi. » Et vous savez que Élisabeth porte Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et alors Marie dit « Mon âme chante la grandeur du Seigneur. » Et je vous invite à lire ce texte. Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui. Il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et ses descendants, pour tous les temps. Je vous invite à la prière. Que ta parole, inspirée par ton esprit, dans laquelle tu as consigné ce beau chant de Marie qui a mis au monde Jésus, puisse venir nous nourrir, nous édifier, nous apprendre à t'aimer davantage encore. Au nom de Jésus. Amen. L'espérance, chers amis, est une réalité étonnante qui anime les peuples et leur permet d'avancer aux moments les plus sombres de leur histoire. L'espérance est aussi un sentiment puissant qui tient debout les hommes et les femmes les plus éprouvés. C'est cette énergie intense qui permet à la veuve de se relever après la disparition de son conjoint bien-aimé, à la mère de se battre contre la maladie grave qui atteint son enfant chéri et à l'orphelin de continuer à vivre malgré l'absence des parents tant désirés. Dans un poème intitulé « Le porche du mystère de la deuxième vertu », Charles Péguy compare les trois vertus théologales, la foi, l'amour et l'espérance, et fait dire à Dieu, à propos de cette dernière, je cite « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance, immortelle. La foi est une épouse fidèle. La charité est une mère ardente, pleine de cœur, ou une sœur aînée qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme Janvier, avec ses petits sapins en bois d'Allemagne, peints, et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas, puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille qui pourtant traversera le monde. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux. Il faut avoir obtenu, il faut avoir reçu une grande grâce. Fin de la citation. Comme le dit Peggy, l'espérance ne va pas de soi. Elle est pour le croyant plus qu'un sentiment puissant et qu'une énergie intense. Elle est un profond élan de confiance qui trouve sa source en Dieu et s'appuie sur ses promesses. Mais comme le dit le poète, pour espérer, il faut avoir reçu une grande grâce. Et c'est bien une grâce exceptionnelle qu'a reçue Marie, qui lui fait chanter ici l'espérance. Connue traditionnellement sous le nom de Magnificat, en référence au premier mot de la traduction latine, Magnificat anima mea dominum, ce cantique, vous le savez, a inspiré de nombreuses œuvres musicales, de Claudio Monteverdi à Franz Schubert, d'Antonio Vivaldi à Melchior Hoffmann, sans oublier l'incontournable Jean-Sébastien Bach. Un texte qui, par ses accents révolutionnaires, oui, révolutionnaires, il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, a aussi accompagné la lutte politique des théologiens de la libération en Amérique du Sud. Sous le signe de la grâce imméritée dont elle est l'objet, la mère de notre Seigneur chante donc l'espérance d'une vie de foi totalement bouleversée par l'intervention de Dieu et l'espérance de tout un peuple ravivé par l'imminence d'un salut promis depuis des siècles. Je vous invite à considérer tour à tour, dans ce cantique de Marie, la grâce puissante, la grâce renversante et la grâce constante qui sont mises en lumière. Les premiers mots du chant de Marie rappellent immédiatement au lecteur juif et à tout lecteur assidu de l'Écriture les paroles de reconnaissance d'une autre femme de la Bible, Anne, la mère de Samuel, qui a vécu quelques 11 siècles plus tôt. Stérile et donc humiliée dans une société où la stérilité est une malédiction, celle-ci avait crié son désespoir à l'Éternel et avait fait cette prière, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Exaucé, elle avait entonné un cantique commençant par ces mots « Mon cœur exulte en l'Éternel ». Et donc, quand Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur », elle s'inscrit très consciemment dans la lignée des Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, qui ont toutes eu pour point commun de donner naissance à des hommes qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. Sarah a donné naissance à Isaac, Rebecca à Jacob, Rachel à Joseph et Anne à Samuel. Et qu'ont en commun toutes ces naissances, elles sont miraculeuses. Car elles sont toutes intervenues après les affres de la stérilité pour les femmes que je viens de citer. C'est comme si Dieu, tout au long de l'histoire, s'était plu à rappeler aux hommes qu'il avait choisi que leur vie tout entière était entre ses mains, puisque même leur capacité procréatrice dépendait finalement de son bon vouloir. Alors Marie s'inscrit dans la lignée de ces femmes célèbres, tout en ayant conscience de les dépasser en renommée. Quand elle dit « C'est pourquoi, désormais à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse », Marie perçoit qu'elle est l'objet d'une grâce plus extraordinaire encore. Elle, les Sarah, Rebecca, Rachel et Anne ont vu Dieu répondre à leurs prières et triompher de leur stérilité. Mais avec Marie, Dieu ne répond pas à une telle prière. En fait, il choisit une jeune fille vierge et lui dévoile son étonnante volonté, faire d'elle la mère du Fils de Dieu. Il y a plus qu'une affaire de degré entre les miracles opérés sur les unes et l'intervention du Saint-Esprit dans le corps de l'autre. Jusque-là, Dieu avait rétabli une capacité naturelle, la fertilité. Ici, avec Marie, il rend possible l'impossible. Et vous vous souvenez de ce que dit l'ange Gabriel à la fin de l'Annonciation, car rien n'est impossible à Dieu. Il fait en Marie une création nouvelle qui restera unique dans toute l'histoire de l'humanité. Faire naître d'une femme qui n'a pas connu d'homme un enfant, sans pour autant qu'il y ait là procréation médicalement et humainement assistée. Ce miracle divin inouï signale une intervention d'une puissance inédite. Non seulement Dieu bouleverse la vie d'une femme, mais il en fait la mère d'un homme qui va dépasser et de loin, de la tête et des épaules, les Isaac, Jacob, Joseph et Samuel qui ont pourtant fait l'histoire d'Israël. Marie donnera naissance à celui qui transformera l'histoire de toute l'humanité, au Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné pour notre salut. Vous le savez, on parle en théologie de naissance virginale, à propos de laquelle on fait remarquer que Jésus garde ainsi une identité tout à fait unique. Et je cite un père de l'Église, « Il est sans père ni mère, sans père sur la terre et sans mère dans le ciel. » Il est sans père ni mère, sans père sur la terre et sans mère dans le ciel. La puissance de la grâce manifestée en Marie pour la naissance du Fils de Dieu est une immense source d'espérance pour le croyant. Elle est, mes amis, la meilleure preuve que Dieu peut faire toutes choses nouvelles en nous, puisqu'il a pourvu au salut en faisant toutes choses nouvelles en Marie. Qui donc, devant ce miracle, peut affirmer que son péché est trop profond, sa condamnation trop avancée pour qu'il soit impossible au Christ de faire en lui une nouvelle création, comme Paul l'annonce? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il me faut faire ici une remarque, parce qu'il est rare qu'on prêche sur Marie dans les milieux évangéliques. Cette réalité d'une grâce puissante et tout à fait exceptionnelle accordée à Marie explique que l'Église ancienne a fait très tôt une place importante à la Mère du Sauveur dans son enseignement. Malheureusement, la piété populaire s'est emparée de Marie pour lui donner une importance dans la foi qu'elle n'a nullement dans l'Écriture. Et l'Église, plus soucieuse d'encadrer la ferveur populaire que de la corriger, a enseigné au cours des siècles des vérités et promulgué des dogmes très éloignés de la vérité biblique. Coopération au salut, virginité perpétuelle de Marie, immaculée conception, assomption, culte marial. Par réaction, les évangéliques en général et les baptistes en particulier sont devenus très discrets sur Marie, trop même. Je ne sais pas si vous savez que baptistes et catholiques ont dialogué sur ce sujet. Et ils disent avec raison dans un intéressant document sur Marie, les baptistes, comme nombre de protestants, ont eu tendance à rester pratiquement silencieux sur Marie. Celle-ci ne peut-elle pas être présentée aux côtés d'Abraham, de Moïse, de Pierre, de Paul et de bien d'autres comme un modèle de foi? Son accueil de la grâce et son acquiescement à la parole du Seigneur qui lui était adressée par l'ange a ouvert un chapitre essentiel de l'histoire du salut, celui de l'incarnation. Tous les chrétiens peuvent confesser ensemble que Marie est bienheureuse à cause de la grâce qui lui a été faite et, à certains égards, exemplaire pour la vie de foi de chaque chrétien. On parle bien d'un exemple. Une grâce puissante, mais aussi une grâce renversante. La puissance de la grâce est accompagnée dans le cantique de Marie d'une annonce de jugement qui surprend. Marie a des accents quasi vindicatifs quand elle annonce « Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. » Comme je vous l'ai dit en introduction, ces affirmations ont paru révolutionnaires et ont conduit certains soit à interdire la lecture de ce texte en chaire, soit à en faire un étendard dans un contexte de lutte sociale révolutionnaire. C'est en particulier le cas en Amérique du Sud, avec la théologie de la libération qui a enjoint l'Église catholique à adopter le point de vue des pauvres et à défendre leurs intérêts, alors qu'ils étaient, c'est vrai, l'objet d'innombrables injustices de la part des groupes militaires au pouvoir. Mais on ne voit guère de qui Marie aurait à prendre sa revanche dans la situation qui la caractérise. Il faut donc chercher ailleurs la raison de ces accents révolutionnaires. Ils sont, à mon avis, à chercher du côté de la conscience qu'a Marie de sa condition. La bassesse de la servante dont elle parle n'est pas à prendre tant au sens moral qu'au sens social du terme. Les autres traductions parlent de servante sans importance, d'humble servante. Un commentateur a même écrit, il a remarqué sa servante dans l'humilité de son rang. Alors Marie est nourrie par l'Écriture et on reconnaît, c'est pour ça qu'il y a des passages en italique, on reconnaît dans son chant des passages, en fait, de l'Ancien Testament. Ce que Marie comprend, c'est que le choix d'une femme ordinaire, comme elle, pour la naissance extraordinaire du Sauveur, est un signe de jugement. Dieu ne fait pas venir son Fils parmi les riches et les puissants. C'est peut-être le choix que nous aurions fait, s'il nous avait été proposé pour assurer au moins au Sauveur un foyer à l'abri des soucis matériels et une place en vue pour l'exercice de son ministère. Eh bien non. Dieu fait le choix d'un foyer humble qui ne sort pas du lot, et vous le savez, la naissance même dans une étable en rajoute encore dans cette humilité. Dieu avertit ainsi que le royaume annoncé par son Fils n'est pas de ce monde. Il dit à une nation marquée par l'oppression des Romains, écrasée par le poids des impôts, que lui, Dieu n'y a pas égard, mieux qu'il a décidé de renverser l'ordre des choses. Mes amis, la grâce de Dieu, aussi puissante soit-elle, n'a pas d'acquaintance avec les puissants de ce monde. Elle n'a de cesse de se manifester particulièrement, mais pas exclusivement, parmi les humbles. Vous vous souvenez de ce que dit Paul à propos de l'Église ? Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelé. Il n'y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. La grâce de Dieu, mes amis, est en fait renversante. Ce n'est pas la grâce d'un Dieu qui céderait par gentillesse ou par faiblesse. C'est au contraire une grâce virile qui bouscule l'ordre établi et un revers que nous oublions trop facilement. Elle n'est grâce que par rapport à un jugement et une condamnation qui demeure sur ceux qui méprisent l'appel de Dieu. Et l'aspect renversant de cette grâce n'est pas réservé aux seuls païens ou incroyants. Marie la première en fera les frais, puis le peuple tout entier qui attend le Messie. Vous vous souvenez ce que dit Siméon, le vieillard, à Marie, lorsqu'il a pris dans ses bras le Messie? Sache-le, Marie, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Souvenez-vous, frères et sœurs, qu'à trop attendre un Messie à l'image de ses désirs, c'est-à-dire un libérateur militaire, le peuple d'Israël a dans sa grande majorité repoussé le Fils de Dieu. Et je m'inquiète de voir trop d'évangéliques des deux côtés de l'Atlantique attendre un sauveur humain et ne pas assez se confier dans le sauveur céleste. Voilà, mes amis, qui sonne comme un avertissement. La grâce de Dieu est renversante et refuse d'être enfermée dans nos schémas simplistes. Un ami avait coutume de dire, avec raison, que Jésus n'était pas seulement la réponse à toutes nos questions. Il était aussi parfois la question à toutes nos réponses. Sa grâce renverse nos idoles. Elle bouscule nos vies. Il ne peut se contenter de nos efforts et de nos richesses, parce que ce qu'il veut, c'est notre vie tout entière, offerte dans l'humilité. Une grâce puissante, une grâce renversante et une grâce constante. Il me reste à dire quelques mots d'une autre vérité chantée par Marie. Sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent ou qui l'adorent. Si Marie s'inscrit consciemment dans la lignée des femmes célèbres de l'Ancien Testament, elle se rend compte avec plus d'acuité encore que celui qui se forme en son sein est la réalisation de la promesse faite à Abraham quelques 2000 ans plus tôt. Entre le patriarche de la nation, celui que Paul désignera comme le père des croyants, et elle, il y a un lien qui s'établit par-delà les siècles, qui ne doit rien ni aux qualités d'Abraham, ni à ses propres mérites, mais tout à la promesse du Seigneur guidée par son amour. Dès les origines, Dieu n'a-t-il pas dit au serpent ancien que la femme lui écraserait la tête ? Et tout au long de l'histoire d'Israël, le Seigneur n'a cessé de réitérer ses promesses et de manifester sa miséricorde. L'enfant qui doit naître est l'accomplissement ultime, définitif, parfait, et la démonstration inégalable de l'amour divin. Quelle constance dans la grâce de Dieu. 2000 ans d'histoire marquée par l'inconstance des hommes, leur infidélité, l'ingratitude de ceux que Dieu avait choisis, ne l'ont pourtant pas détourné de son dessein d'amour. N'ont pas mis un terme à la validité de ses promesses. Plus que toute autre chose, la venue du Fils démontre que Dieu ne change pas. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants, pour tous les temps. Qui n'a pas compris les raisons de la constance de sa grâce à l'égard des hommes, n'a pas compris la dimension réelle de l'amour de Dieu. Mes amis, le Seigneur ne nous aime pas en raison de ce que nous avons fait pour lui, mais en fonction de son décret divin de toute éternité exprimé dans ses promesses. Réfléchissez un instant, si 1% seulement du salut dépendait de notre constance dans la foi, de notre fidélité, nous serions les plus malheureux des hommes et des femmes. Car ce seul pourcentage, en raison de notre cœur corrompu par le péché, suffirait à tout faire échouer. Mais puisque tout dans notre salut dépend de sa seule miséricorde, alors nous sommes assurés de ne pas être livrés à notre triste sort. Et nous pouvons vivre dans la confiance, tout entier tendu, non dans le fait de gagner l'amour de Dieu, mais d'y répondre avec reconnaissance. Marie chante l'espérance que la grâce divine a fait naître en son cœur et qui habite aussi dans les nôtres par l'Esprit Saint. La grâce est puissante. La jeune fille vierge a donné naissance au Sauveur. Et cette même grâce a la puissance de faire de nous des créatures nouvelles à la suite du Fils, comme nous l'avons entendu par les témoignages tout à l'heure. La grâce de Dieu est renversante. Elle s'est accompagnée du jugement de ceux qui avaient mis leur confiance dans leur pouvoir et leur richesse. Elle vient aussi bousculer les idoles de notre cœur pour que nous marchions dans l'humilité. La grâce de Dieu est constante. La venue du Fils pour accomplir la promesse faite à Abraham est la meilleure preuve qu'il nous donne de marcher sur cette terre. Que Dieu nous gardera dans sa main pour les quelques décennies qu'il nous donne de marcher sur cette terre. Nous pouvons donc ajouter notre voix à celle de la mère du Sauveur et dire sans l'ombre d'une hésitation, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint, saint est son nom. Amen. » Je vous invite à la prière. Alors, Seigneur, que nous allons par ces dimanches vers la célébration de Noël, nous voulons nous souvenir que dans ton salut, tout est grâce. Toi-même, tu es venu par Marie de façon inattendue, miraculeuse, et tu as manifesté déjà dans cette venue toute la grâce qui t'appartient, qui t'anime, que tu veux donner. Pardonne-nous d'être si souvent des hommes et des femmes, non pas de la grâce mais de la rétribution. Pardonne-nous si souvent de croire encore que le salut dépend de nous. Mais accorde-nous, Seigneur, plus que jamais, de savoir que tout vient de toi. Et mets dans nos cœurs la reconnaissance qui t'est due. C'est notre prière en Jésus. Amen.
Merci Étienne pour...